Si on réfléchit au développement normal, quand ça se passe bien, c'est fou les répétitions qu'il y a dans les deux premières années de vie, et surtout dans la première répétition de tous ces contacts du dos, du regard, etc. Et là, il y a ces répétitions de séances, tu avais 2-3 séances par semaine, peut-être, dans ta technique, et même avec trois séances par semaine, il faut tout un temps. Moi, c'est une des questions que je me pose. Et on s'aperçoit qu'il faut ce temps et que tout d'un coup, il y a quelque chose qui est accumulé et qui a fabriqué une introjection à plus se passer. Et une introjection de forme, justement. Alors on le voit exercer à la sortie de son tapis, il refait le tour, que tu as assimilé à la boucle du retour. Ben, j'ai trouvé ça très bien, c'est ça même, et même encore un peu en bidimensionnalité peut-être, parce que là, moi je propose de penser qu'il y a déjà des boucles de retour en bidimensionnalité avant et après la naissance, je suspecte. Et qui vont, alors, à quel moment ça se cristallise en tridimensionnalité? Il y a l'histoire du jeu oculomoteur des premiers mois de la vie, qui m'intéresse depuis quelque temps. Il y a sûrement des gens dans la salle qui sont très savants de cela. Et ça rejoint à nouveau le métro de Bulinger par rapport à ce qu'il évoque de l'importance d'apporter d'abord cette verticalité première pour que l'orientation du regard, l'oculomotricité se mette en place avec ces va-et-vient, qui a l'air de faire des formes et de préparer les formes de la sphéricité aussi. Et ça, c'est une histoire très, très intéressante. J'ai cité il n'y a pas très longtemps, parce que c'est une chose très récente pour moi, mais c'est une adulte qui travaille elle-même en déplacement sur une relation avec un arbre, qui travaille très fort, cette retrouvaille de la première verticalité et du jeu oculomoteur pour faire la verticale, pour faire l'horizontale, et ça finit par trouver la frondaison en haut, c'est-à-dire la calotte sphérique, et puis après avec le tunnel.
Exactement.
Voilà, alors ça c'est très, très passionnant.
Beaucoup de choses très très intéressantes évidemment ce matin, peut-être 2-3 mots puisque je reviendrai évidemment cet après-midi sur des choses de façon plus approfondie. La question de la sphère, je trouve très intéressant la manière dont tu le décris comme des tentatives d'aller faire des points de façon sphérique sur le mur, enfin tout ce que tu nous as raconté, comme si au fond il y a chez l'enfantiste, il y a la construction d'une sphère par défaut, comme si la comodalisation qui ne marche pas comme ça devrait dans le développement trouvait comme suppléance le fait d'aller faire de façon adhésive quelque chose qui est à la rencontre avec une limite, et que cette sphère se construit par défaut, à défaut de la sphère de la comodalité habituelle dans le développement normal du bébé. Bon, ça c'est un point sur lequel ça vaudrait vraiment le coup qu'on en discute. Un deuxième, c'est si jamais tu lances un groupe sur les seuils, moi je pense que je m'inscris d'emblée parce que le seuil c'est vraiment bon. Le fait que ton livre n'ait pas été publié au seuil, mais au livre, rajoute à la difficulté. Enfin bon, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est vraiment un signe sur le plan phénoménologique qui, dans les premiers contacts qu'on a avec les enfants autistes, on voit toujours, enfin très très souvent, qu'au moment du seuil, il y a ce que tu appelles la falaise qui se produit. Et ça, c'est vraiment un élément formidable parce que ça va rejoindre un élément que j'aborderai cet après-midi à propos de Bulinger, le rapport avec la pesanteur, c'est-à-dire quand même une forme première d'agonie primitive winnicottienne, c'est-à-dire tomber sans cesse. Donc il y a vraiment ce point-là qui me semble essentiel. Et puis quand même, je voulais dire juste un dernier petit mot, parce qu'il me demande de parler, mais en même temps de me taire. C'est l'embarquement pour se taire. Par rapport à ce que vient de dire Suzanne sur les choses dont elle n'a pas parlé, pour lesquelles on la connaît tous, hein, qui est l'objet sonore, bon, mais l'émotion qu'elle a été capable de nous faire partager à propos de cette dernière séance. Et je pense que c'est vraiment dans le sujet, le rapport qu'il y a entre les premières représentations et la possibilité ou pas qu'un enfant a de partager ses émotions avec son environnement. Et je crois que c'est vraiment fondement, c'est l'objet d'arrière-plan primitif de toute relation humaine et évidemment le défaut fondamental de beaucoup d'enfants autistes. Voilà.
J'aurais résisté toute ma vie à venir à la canière, mais dans Seuil, il y a Seul plus le lit d'imaginaire.
Alexandre Nouveau, pédopsychiatre, je vous remercie effectivement à vous tous de cette présentation. Et Madame Hague, merci particulièrement. Alors le président de la SPP tout à l'heure disait par rapport à vos recherches, peut-être qu'elles n'ont pas pu être à une époque transmises, on va dire, à d'autres cercles. Peut-être que je tombe sur un bon timing, parce que j'ai l'occasion, dans mon poste hospitalier universitaire, de pouvoir un peu les transmettre à d'autres. Et du coup, je voulais vous donner un exemple par rapport en plus à ce que vous demandiez sur le regard prédateur. Une recherche qui commence maintenant à être connue depuis un certain temps, montrait le regard, le suivi du regard chez les autistes light tracking, c'est-à-dire le fait que les autistes, effectivement, à la différence de nous autres, ne regardent pas trop les yeux ni la bouche, parce que pour nous autres qui ne sommes pas autistes, c'est vrai que c'est là où on arrive à voir l'infraverbal et tout ce qui est expressif. Sur cette étude, effectivement, par la suite, ils avaient fait en intranasal, ils avaient donné de l'ocytocine. L'ocytocine qui est connue, effectivement, pour vous, mesdames, lorsque vous accouchez, d'être cette hormone de l'attachement et de la maternité qui est associée un petit peu.
Je ne suis pas jaloux.
Je suis un peu jaloux, effectivement. Et de ce fait, effectivement, à la suite de ça, et très rapidement, quelques minutes après, ce qui est assez et très étonnant, c'est que ces personnes autistes arrivent à regarder dans le regard des personnes et à regarder un peu plus la bouche. Dans cette discussion que j'avais eue avec ces personnes, il y a pu avoir des anthropologues qui expliquaient très clairement que, en fait, quand on était des hommes de Cro-Magnon, tout ce qui bougeait était potentiellement un danger. C'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'on fuyait les lions qui pouvaient venir derrière les buissons. Et c'est en ça, effectivement, que votre regard prédateur, j'ai pu l'expliquer, évoquer ce qui avait été décrit par vous. Et je voulais savoir ce que vous pensiez, donc, effectivement, de ce cerveau archaïque qui dit que le mouvement est dangereux, cette ocytocine qui agit sur l'amygdale et rassemble et rassure un petit peu ce cerveau archaïque, que le cortex n'arrive pas à envelopper parce que abîmé ou parce qu'on ne porte pas fini. C'était ça, et pour vous dire la petite histoire, donc, quand je les ai envoyés ce mail, quelques mois plus tard, j'avais à votre sujet, elle est assez pertinente, cette dame. C'est ça que je voulais vous dire, donc c'était vraiment. Voilà, merci de votre travail.
Oui, c'est très intéressant d'évoquer ces jonctions avec la biochimie cérébrale qui sont par rapport à toutes ces zones de troubles très primitifs et moins primitifs d'ailleurs. Qu'est-ce qui va plus vite, c'est l'ocytocine ou c'est la thérapie? et qu'est-ce qui dure le plus longtemps? Ça fait vraiment. Par contre, hein, au contraire, il faut faire des recherches comme ça. C'est comme le comportementalisme, hein. Ça ne se fixe pas sur. On dit qu'il faut répéter, sinon ça ne tient pas. Dans la mémorisation ne tient pas. Donc là aussi, qu'est-ce qui est préférable? Je crois qu'il faut être attentif à toutes les recherches dans tous les sens, y compris comportementales, mais se réunir et s'en parler de temps en temps, c'est ce qui serait mieux. Et de voir que si les chercheurs maintenant peuvent s'imaginer que
C'est intéressant aussi que la psychanalyse fasse partie du débat autour de la recherche. Parce que, pour le moment, on est considéré comme non scientifique et non participant aux véritables recherches scientifiques. Or, c'est faux. On a notre grain de vérité, comme disait Justine, qu'il faudrait essayer de rassembler.
Encore une question peut-être, et puis on fera la pause.
Oui, Monique Brio, pédopsychiatre, responsable du CAPS de Toulon. C'était juste une remarque avec un questionnement que j'ai depuis quelques années en suivant des enfants grands prématurés, je dirais, et qui, je dirais, naissent à 24, 27, 29 semaines en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a beaucoup de jumeaux, alors je pense qu'il y a des traitements qui font au cœur. Mais je voulais vous demander si vous aviez réfléchi sur les mouvements des doigts de ces bébés qui n'en ont pas. Et c'est, j'en ai un en tête là en ce moment parce que je dois le présenter à un autre congrès. Et je trouve que cet enfant, je dirais, lorsqu'il est dans les bras de ses parents, de son père en particulier d'ailleurs, il est, je dirais, un véritable bébé chiffon. Alors, avec une espèce d'attitude de bras mou contre le corps, les jambes dans la même, je dirais, position, je trouve, qui est... Enfin, en tous les cas, c'est vrai que moi, j'ai eu de grandes émotions avec ces bébés-là, parce que c'est vrai qu'on est presque interpellé sur la vie. Et donc, j'ai pris ce bébé dans les bras, parce que le père me disait « sentez-le », alors j'avoue que bon, le verbe m'a aussi beaucoup interpellé. Et je pensais que cet enfant avait une hypotonie axiale qui ne tiendrait pas sa tête. Et donc, voilà, je voulais avoir un petit peu votre avis, puis vous parler de ces situations-là qui, en ce moment, interpellent beaucoup.
Je n'ai pas, personnellement, une grande expérience des prématurés. J'ai traité des autistes qui étaient des anciens prématurés, mais avec d'ailleurs des hypotonies de base. Une fille qui a une hypotonie de base impressionnante, qui est pendant toute la première année de sa vie, et qui ensuite s'est défendue, a installé une hypertonie constante de l'axe en particulier, et une hypertonie qui gagnait tout le viscéral. Mais elle ne pouvait tenir qu'avec cette hypertonie, mais elle développait des communications vraiment intéressantes. Mais elle était sans cesse complètement serrée de toutes parts, tout en étant très... et en comprenant bien les choses. Alors cette hypotonie, moi je ne sais pas, là il faut se combiner avec les neuros et avec, pour y comprendre quelque chose. En tout cas, il faut faire quelque chose autour pour réanimer aussi, et alors quels sont qu'est-ce qui marche le mieux, est-ce que c'est probablement des travaux mère-bébé, des accompagnements mère-bébé, voir ce qui se passe aussi entre les dépressions qui sont autour de ces bébés, les espoirs, je ne sais pas, enfin, mais il y a des hypotonies très très impressionnante, qui mettent beaucoup de temps à se tonifier.
Pour enchaîner sur votre question, j'ai réfléchi beaucoup au prématuré et précisément à l'hypotonie et au manque d'appui du dos. Et je crois que ça a à faire avec le fait que c'est vers la fin de la grossesse que l'enfant appuie vraiment fermement son dos sur la paroi intérieure de l'utérus. Donc, et là, je crois qu'il y a quelque chose qui se forme dans le sens de Rothstein, de l'objet d'arrière-plan qui soutient. Et un enfant qui naît prématuré n'a pas cette expérience. J'ai observé une petite fille qui n'était pas autiste, mais née prématurée à la 30e semaine. Tu parlais maintenant de d'une petite fille qui devenait carapace, qui se renforçait, qui avait une hypertonie défensive. Tandis que cette petite fille, lorsqu'elle rencontrait quelqu'un qui venait la trouver, elle avait 2 ans ou quelque chose comme ça, elle marchait déjà, elle ne leur passait pas de devant, mais elle se retournait et s'appuyait à ses jambes. Elle restait appuyée à ses jambes. Elle avait besoin de ça pendant longtemps, jusqu'au moment où elle a pu grandir normalement. Juste 2 mots encore sur la question que tu me posais, Geneviève. Quelle était la forme du tapis d'Antonio? Tu m'avais demandé est-ce que c'était un tapis rond ou carré. J'ai dit qu'il était carré. Et tu avais l'air un peu déçu. Mais je crois que tous les mouvements humains, si nous les analysons, si nous les photographions, nous les filmons, il n'y a pas de mouvement humain carré. Tous les mouvements ont une rondeur. Ça fait que même si le tapis est carré, parce que la pièce de thérapie aussi est carrée ou rectangulaire, nous ne travaillons pas dans des chambres sphériques en général. Mais les mouvements humains sont toujours sphériques.
Non,
mais il n'y a pas d'ordre pointu. Oui, les stéréotypies, dans la répétition, elles deviennent pointues. Mais si on pense au mouvement d'Antonio, il était bien droit sous le tapis, et puis ça arrondissait, il faisait le tour du tapis carré. Il faisait le demi-tour, et le 2 demi-cercles, ça fait le stéréotype.
Allez.